Mais bien, chers amis, bien que nos papes, depuis trois quarts de siècle, aient publié une vingtaine d'encycliques traitant de questions sociales, on considère généralement Rerum Novarum de Léon XIII comme ayant ouvert la Syrie. Elle fit en effet une grande lumière à une époque où le monde ouvrier souffrait de conditions très injustes et très dures, conditions nées d'une révolution industrielle, alors que la production rendue plus abondante par cette révolution industrielle aurait dû être bénéfique pour toutes les classes de la société. Mais les corporations anciennes ayant été abolies à l'époque de la Révolution française et rien ne les ayant remplacé pour protéger les droits des travailleurs, les ouvriers étaient laissés, selon les termes même de Léon XIII, à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Cette concurrence était motivée par la soif insatiable de profit par ceux qui, possédant l'argent, embauchaient à leur service ceux qui en manquaient pour vivre et faire vivre leur famille. Les entreprises avaient pour but principal non pas tant de fournir des produits à la population que de faire de l'argent pour les bailleurs de fonds. Il fallait que l'argent rapporte de l'argent, toujours plus d'argent, d'où petit salaire en face de gros prix. L'homme devait déjà exister pour servir l'industrie et non pas l'industrie pour servir l'homme. Servir l'industrie qui, elle, devait servir l'argent. L'argent était déjà devenu la fin de toutes les activités économiques. Presque dès le début de l'encyclique de Léon XIII, deux phrases qui se rapportent certainement à cette voracité de l'argent nous laissent sous une certaine curiosité par l'emploi d'une expression non précisée et qui ne revient pas dans le reste du document. Léon XIII écrivait « Une usure dévorante est venue s'ajouter encore au mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. » Qu'est-ce que cette usure dévorante sous une autre forme? En quoi consiste cette nouvelle forme d'usure qui est venue s'ajouter à l'oppression des travailleurs? L'Église avait longtemps considéré comme usure tout intérêt réclamé par un prêteur d'argent, même à un taux très minime d'intérêt, c'était condamné comme usure. Puis, une fois l'intérêt toléré, c'est le taux trop élevé qui s'appela usure. Au temps de Rerum Novarum, 5% était la limite maximum tolérée par l'Église. Au-delà, c'était de l'usure. Mais voici que Léon XIII parle d'une usure sous une autre forme. Cela ne veut-il pas dire sous une autre forme qu'un taux d'intérêt trop élevé? Qu'était donc cette nouvelle forme d'usure? Le pape ne la définit pas, ni dans ce passage, ni dans le reste de l'encyclique. Un prêtre anglais, l'abbé Drinkwater, a écrit en 1935 un livre dans lequel il rappelle cette phrase de Rerum Novarum. Selon l'abbé Drinkwater, l'usure dévorante sous une forme nouvelle, c'était le monopole du crédit, qui allait de plus en plus devenir un monopole de l'argent, de tout l'argent moderne, mais dont la nature et le jeu, à cette époque, étaient encore mystérieux pour presque tous les profanes. Mais, si elle fut mentionnée par le pape, il en connaissait au moins l'existence, pourquoi n'a-t-il pas dit de quoi il s'agissait? L'abbé Drinkwater rapporte à ce sujet qu'un comité d'études siégeant à l'université de Fribourg avait préparé des éléments pour la rédaction de Rerum Novarum. Parmi les membres de ce comité, dit-il, il s'en trouvait au moins un Autrichien bien au courant de la question monétaire et du crédit bancaire. un texte préparé par lui fut apparemment approuvé par le comité. Il devait bien montrer comment la simple monnaie scripturale qui prend naissance dans la banque et qui tendait déjà à devenir l'instrument monétaire courant du commerce et de l'industrie n'était en somme qu'une monétisation de la capacité de production de toute la communauté. L'argent nouveau ainsi créé ne peut donc bien être que social et nullement propriété de la banque. Social par la base communautaire qui lui confère sa valeur. C'est en effet la production de toute la communauté dans son ensemble qui confère de l'argent, de la valeur à l'argent. Social aussi par la vertu qu'a cet argent de commander n'importe quel service et n'importe quel produit d'où qu'il vienne. Le contrôle de cette source d'argent place donc entre les mains de ceux qui l'exercent un pouvoir discrétionnaire sur toute la vie économique. Puis, la banque qui prête non pas l'argent de ses déposants, mais des dépôts qu'elle crée elle-même de toutes pièces par de simples inscriptions de chiffres, ne se départit de rien. L'emprunteur peut sortir de la banque avec un prêt de 100 000, 200 000 dollars ou davantage. La banque n'a pas sorti un sou de ses coffres ni diminué d'un sou les dépôts de ses clients. C'est de l'argent nouveau sous forme de crédit financier ayant toutes les vertus de l'argent de métal ou de papier. Argent nouveau créé d'un trait de plume dans les livres de la banque. L'intérêt qu'elle en exige peut bien être taxé d'usure. Quel qu'en soit le taux, c'est plus que du 100% puisque c'est de l'intérêt sur un capital zéro de la part du prêteur. Usure aussi qui peut bien s'appeler dévorante. En effet, l'emprunteur n'est pas capable de tirer de la communauté plus d'argent qu'il n'y a été mis en circulation. Pour pouvoir servir l'intérêt, il faut qu'il y ait d'autres prêts venant par derrière et jetant de nouvel argent en circulation. Autres prêts exigeant eux aussi d'autres intérêts. D'où une accumulation de dettes, les unes de caractère privé, les autres de caractère public, quand il s'agit d'emprunts par le gouvernement ou par des corps publics, mais toutes collectivement impayables. Que fut exactement la rédaction de ce texte relatif au monopole du crédit? Nous ne pouvons pas le savoir puisqu'il ne parut pas dans l'encyclique. Et pourquoi ne parut-il pas dans l'encyclique? Fut-il supprimé à Fribourg même dans la rédaction définitive de l'étude envoyée à Rome? Fut-il subtilisé entre Fribourg et Rome? Ou entre sa réception au Vatican et sa remise au souverain pontife, ou bien est-ce Léon XIII lui-même qui décida de laisser de côté? L'abbé Drinkwater pose cette question, mais il n'y répond pas. L'encyclique Rerum Novarum fit beaucoup de bien. Les principes qu'elle rappelait en matière sociale contribuèrent à l'apparition et au développement d'un esprit plus humain et plus chrétien, au moins moins barbare, dans les relations entre patrons et ouvriers. Sans doute avec des exceptions, trop d'exceptions encore. Mais cet esprit nouveau fit tout de même sa marque. Des patrons s'appliquèrent, au moins dans une certaine mesure, à améliorer les conditions de travail de leurs employés. Et de leur côté, des ouvriers que les dures conditions de leur existence poussaient à la violence ou vers les théories du socialisme, reprirent courage en entendant la voix la plus autorisée du monde plaider leur cause. Ils apprirent à se grouper et à chercher dans l'ordre un meilleur traitement de la part de leurs employeurs. On vit céder graduellement la défiance qui prévalait presque partout, surtout depuis la Révolution française, contre la formation d'associations. D'autre part, la continuation du progrès à un rythme accéléré dans la production exigeait, sous peine d'asphyxie de l'industrie, une plus large distribution des produits. En même temps, ce progrès permettait de maintenir, d'augmenter même le volume de la production tout en diminuant les longues heures de la semaine ouvrière. Les travailleurs devraient donc bien en profiter un peu par la force même des choses. La Première Grande Guerre mondiale put bien détourner les activités de l'industrie vers la production de biens sans utilité pour le niveau de vie. La guerre laissait plutôt des ruines. Mais une fois terminées les hostilités qui durèrent 4 ans, le développement de techniques perfectionnées pour des fins de guerre allait être mis avec la même efficacité au service d'une économie de paix. En effet, le relèvement fut rapide. Le niveau général de vie connut même une montée fiévreuse dans les pays évolués, jusqu'au coup de tonnerre financier qui plongea ces mêmes pays dans la crise sans précédent des années 30. Crise logiquement inexplicable, laissant une immense capacité de production dans l'inaction en face de besoins criants partout. Impossible de l'attribuer à des phénomènes naturels, ni à la disparition de compétences, ni au refus de travailler par des hommes qui cherchaient partout de l'emploi. Tout le monde, d'ailleurs, avait le même mot à la bouche, pas d'argent. Les consommateurs manquaient d'argent, les producteurs manquaient de crédit financier. Rien d'autre ne faisait défaut. Indéniablement, une intervention avait eu lieu dans le secteur financier de l'économie et toute la vie économique en souffrait. Il ne s'agissait plus d'une oppression des employés par des employeurs. Employeurs comme employés gisaient dans le même filet. Mais au cours des 4 décennies écoulées depuis Rerum Novarum, des esprits chercheurs avaient tourné leurs investigations du côté de ce mystérieux secteur de l'économie, l'argent, le crédit. Des découvertes avaient été faites et divulguées, pas encore connues ni admises partout, mais pas non plus complètement ignorées, ni sans preuve irréfutable à leur appui. Le plus distingué de ces découvreurs fut un esprit supérieur qui ne se contenta pas de relever des faits, mais en établit les causes et présenta des propositions capables de faire du système financier un serviteur souple au lieu d'un maître cassant et souverain. Cet homme, ce fut C.H. Douglas, l'auteur des propositions du crédit social, dont le nom et l'enseignement reviennent fréquemment dans les pages de Verdemain pour le bénéfice de ses lecteurs anciens et nouveaux. Le voile levé, l'usure dévorante, pratiquée sous une autre forme, avait maintenant un nom. Elle s'appelle monopole du crédit. Et lorsque le 15 mai 1931, 40 années jour pour jour après Rerum Novarum, Pie XI livrait au monde une nouvelle encyclique remarquable, Quadragesimo Anno, il put se servir de termes qui montraient à tout le monde ce qu'est le monopole du crédit et ses effets déplorables. C'est dont il sera question dans une des prochaines émissions hebdomadaires de Verdemain.